Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 avril 2022. Jean Rocher Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, les pourparlers inter-tchadiens au Qatar, toujours au point mort, aucune percée depuis le début du pré-dialogue il y a un mois. Immigration, Londres et Kigali signent un partenariat pour transférer les sans-papiers du Royaume-Uni au Rwanda. En Afrique du Sud, le dernier bilan des inondations fait état de 341 morts, la plupart dans la région de Durban. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir bombardé deux villages russes, Kiev dément. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le pré-dialogue tchadien au Qatar stagne. Cela fait un mois depuis que les rebelles et le gouvernement militaire ont entamé des pourparlers. Durant le Ramadan, les deux parties prient souvent ensemble, mais refusent toujours de se retrouver à la table des négociations. Le point avec Nani Talani.
Les parties rivales attendent dans une atmosphère cordiale. Nous avons des échanges, nous discutons de nos problèmes. Je ne veux pas dire qui le signera, mais le dialogue se poursuivra, a confié le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mahamat Zene Cherif. Il se dit optimiste quant à la conclusion d'un accord au Qatar. Il n'y a pas de problème d'ordre personnel, il s'agit de la gestion du pays, explique de son côté Issa Ahmed, porte-parole du Front pour l'alternance et la concordance au Tchad, un mouvement politico-militaire. Plusieurs de ces mouvements rebelles veulent des garanties pour leur sécurité s'ils rentrent en N'Djamena pour le dialogue national censé s'ouvrir le 11 mai. Ils exigent aussi que Mahamat Idriss Déby s'engage à ne pas se présenter aux élections, ce que le général refuse de faire. Les groupes rebelles et le gouvernement ont soumis leurs doléances à la diplomatie qatari qui joue la médiation. Maintenant, le Qatar est à pied d'œuvre pour proposer un accord de paix acceptable pour tous.
Cet après-midi, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a fait part de sa forte opposition au projet britannique d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire. Le HCR appelle les deux pays à repenser leur projet. Le Royaume-Uni indique que le HCR a l'obligation de garantir l'accès à l'asile aux personnes qui cherchent une protection. Le HCR demande donc, souligne aussi que la majorité des réfugiés qui se trouvent au Rwanda vivent dans des camps dans les camps où l'accès aux opportunités économiques est limité et estime les pays les plus riches devraient faire preuve de solidarité en soutenant le Rwanda. On passe maintenant à ce partenariat entre le Rwanda et Londres.
L'annonce a été faite à Kigali à l'occasion d'une visite de la ministre anglaise de l'Intérieur, Priti Patel. Le Rwanda se réjouit de ce partenariat avec le Royaume-Uni pour accueillir des demandeurs d'asile et des migrants et leur offrir des voies légales pour vivre, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait de la lutte contre l'immigration illégale sa priorité après le Brexit, mais les traversées de migrants par la Manche ont continué d'augmenter. Depuis des mois, le gouvernement britannique cherche à conclure des accords avec des pays tiers ou envoyer les migrants en attendant de traiter leur dossier. L'accord avec le Rwanda sera financé par le Royaume-Uni à hauteur de 144 millions d'euros. Il prévoit que les migrants, dont ni les nationalités ni les conditions d'arrivée ne sont précisées, soient intégrés dans les communautés à travers le pays, selon le communiqué publié par Kigali.
Merci à Claire Morin-Gibou qui est donc revenue sur la signature d'un accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni pour accueillir sur son sol des migrants et des demandeurs d'asile de diverses nationalités. En Afrique du Sud, le dernier bilan des inondations fait état de 341 morts. Les recherches se poursuivent pour retrouver des personnes portées disparues. Mohamedou Mfa.
La plupart des morts ont été comptabilisées dans la région de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, où les intempéries ont commencé le week-end dernier. Les secours sont entravés par des infrastructures endommagées, a reconnu le gouvernement provincial. Avec des pelleteuses, certains axes routiers ont été rouverts, mais la plupart des routes secondaires sont encore inaccessibles, jonchées de débris ou noyées dans une eau brunâtre. Les autorités ont demandé aux populations d'éviter autant que possible tout contact avec cette eau potentiellement contaminée par des eaux usées, du pétrole ou d'autres substances. Dans le township d'Amaoti, dans le nord de Durban, de nouveaux pillages ont été signalés dans des supermarchés. Les autorités locales ont lancé un appel aux dons de produits alimentaires non périssables, de bouteilles d'eau et de tout ce qui pourrait tenir chaud.
Les nouveaux membres du Parlement somalien ont prêté serment aujourd'hui après des élections longtemps repoussées et un scrutin chaotique marqué par des violences et une lutte de pouvoir entre les dirigeants du pays. La cérémonie de prestation de serment des quelques 3300 membres de la Chambre basse et de la Chambre haute s'est déroulée à Mogadiscio, dans la zone hautement sécurisée de l'aéroport. Les deux chambres doivent voter pour élire un président, mais aucune date n'a encore été choisie. L'ONU a annoncé aujourd'hui dans un communiqué qui a débloqué 100 millions de dollars pour 6 pays africains et le Yémen afin de les aider à lutter contre un risque de famine lié à la perturbation du marché des denrées alimentaires à cause de l'invasion russe de l'Ukraine. L'argent va permettre aux agences des Nations Unies et à leurs partenaires de fournir une aide alimentaire, monétaire et nutritionnelle essentielle, ainsi que d'autres fournitures, notamment des services médicaux, des abris et de l'eau potable, précise un communiqué onusien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie accuse l'Ukraine d'avoir bombardé deux villages russes frontaliers, dont un avec des hélicoptères, des affirmations invérifiables qui font craindre une nouvelle escalade du conflit. Jacques Aristide.
Le comité d'enquête russe affirme que deux hélicoptères ukrainiens équipés d'armes lourdes sont entrés en Russie et ont effectué des frappes sur des immeubles d'habitation dans le village de Klimovo. Pour sa part, le gouverneur de la région de Belgorod, limitrophe de l'Ukraine, a également accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé un village. De son côté, l'armée ukrainienne affirme avoir frappé le croiseur Moskova, le vaisseau amiral russe en mer Noire. Le ministère russe de la Défense confirme que le navire a été gravement endommagé. L'attaque est décrite comme un des plus gros revers de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. À Mariupol, les combats se poursuivent. La ville est assiégée et pilonnée depuis plus d'un mois par l'armée russe. Le chef de la diplomatie irlandaise, Simon Coveney, est à Kiev aujourd'hui pour s'entretenir avec le gouvernement ukrainien. À Washington, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, indique que les États-Unis ont désormais pris les sanctions majeures contre la Russie et se concentrent sur leur exécution.
Et l'Ukraine a rejeté les affirmations de Moscou selon lesquelles elle aurait bombardé des villages russes frontaliers, accusant au contraire Moscou de planifier des attaques terroristes dans la région frontalière pour alimenter l'hystérie anti-ukrainienne. Ces nouvelles accusations surviennent alors que l'armée russe a menacé de frapper des centres de commandement dans la capitale ukrainienne Kiev pour riposter à ce qu'elle qualifie de tir et de sabotage de l'Ukraine sur le territoire russe. Le président américain Joe Biden se déplace aujourd'hui en Caroline du Nord dans le but de vanter ses efforts pour combattre l'inflation ainsi que relancer la recherche et la production de hautes technologies destinées à rendre les États-Unis plus compétitifs. Joe Biden va rencontrer des professeurs et des étudiants en robotique et cybersécurité et discutera notamment d'un projet de loi baptisé Bipartisan Innovation Act visant à améliorer la production manufacturière américaine selon la Maison-Blanche. El Shafi El Sher, âgé de 33 ans, membre de la cinéaste cellule des Beatles au sein du groupe État islamique, a été reconnu coupable ce jeudi par un tribunal américain d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement et la mort de 4 otages américains en Syrie entre 2012 et 2015, accusé d'être membre de ce trio, surnommé ainsi par les otages en raison de leur accent britannique. Il était jugé à Alexandria, près de Washington, pour la capture et la mort des journalistes James Foley et Stephen Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Kayla Muller et Peter Kasich, et pour son soutien à une organisation terroriste. Le jury de ce procès devant un tribunal fédéral n'a mis que 12 heures pour le déclarer coupable des 8 charges qui pesaient contre lui et n'a pas réagi à l'annonce du verdict. Sa sentence sera prononcée ultérieurement. Il encourt la réclusion à perpétuité. Les femmes de Floride n'auront plus le droit d'avorter à partir de 15 semaines de grossesse, selon la loi promulguée aujourd'hui par le gouverneur républicain de cet État du sud-ouest des États-Unis. Le texte adopté par le Parlement de Floride, à majorité républicaine, qui entrera en vigueur le 1er juillet, réduit de 24 à 15 semaines de grossesse le seuil légal pour avorter. Les seules exceptions prises en compte par cette nouvelle loi sont celles d'un risque grave pour la santé de la femme ou d'une anomalie létale du fœtus, mais pas en cas de viol ou d'inceste. Et le Festival de Cannes a dévoilé aujourd'hui la sélection officielle de sa 75e édition, qui se tiendra, je vous le rappelle, du 17 au 28 mai, avec 18 films en compétition pour la Palme d'Or. Présent à la Minute Éco avec Nani Talani.
Le gouvernement ougandais déploie des pesticides pour lutter contre des chenilles appelées légionnaires africaines qui dévastent les cultures céréalières dans 35 districts, dans l'est, le centre et le nord du pays, avec des cultures comme le maïs, le mil et le sorgho et des pâturages. L'Ouganda est un important producteur de maïs et exporte une grande partie de sa production vers les pays voisins, dont le Kenya, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. La Banque mondiale prévoit un ralentissement de la croissance de 3,6% pour 2022 en Afrique subsaharienne, où de nombreux pays sont confrontés aux conséquences de la guerre en Ukraine. C'est une baisse par rapport aux 4% enregistrés en 2021 à cause de la persistance de nouveaux variants du COVID-19, l'inflation globale, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, les chocs climatiques et la montée des cours mondiaux des matières premières, dont le pétrole, le gaz et les denrées alimentaires de base. Terminons par le groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié qui appelle les gouvernements à aider à atténuer les flambées des prix du carburant et à promouvoir de nouveaux développements pour garantir un approvisionnement mondial stable et réduire l'exposition des importateurs et des consommateurs à des risques potentiels dus à l'augmentation des coûts. Les gouvernements devraient aussi apporter un soutien politique et financier en faveur des investissements.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Pas de match aujourd'hui dans la Basketball Africa League dont les rencontres de la conférence Nil se poursuivent au Caire. En Égypte, hier, Kubraspor du Soudan du Sud a décroché sa première victoire dans la compétition en dominant BC Espoir Foukacha de la RDC 108-82. Première victoire également pour les Sud-Africains de Cape Town Tigers qui ont battu les Camerounais du FAP sur le fil 73-70. En termes de bilan à mi-chemin, les Angolais de Petro de Luanda et les champions en titre, les Égyptiens de Zamalek, cartonnent dans cette conférence Nil. Deux victoires en deux sorties. Kubraspor du Soudan du Sud et les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud sont les seuls à avoir disputé trois matchs jusqu'ici, avec un maigre bilan, une seule victoire pour chaque équipe. Force armée et police basketball du Cameroun compte une victoire en deux rencontres et BC Espoir Foukacha de la RDC ferme la marche avec deux défaites en deux sorties. Les matchs de cette conférence Nil se poursuivent jusqu'au 19 avril. Et pour rappel, chaque équipe a cinq rencontres à disputer et les quatre premières de cette conférence Nil se qualifieront pour les playoffs prévus en mai à Kigali, au Rwanda. Ici, en NBA, Atlanta, facile vainqueur de Charlotte, 132-103, et la Nouvelle-Orléans, qui a écarté San Antonio, 113-103, joueront leur qualification pour les playoffs demain, respectivement à Cleveland et chez les Clippers, dans deux derniers matchs de barrage décisifs. En Europe, l'avocat du club de Naples défend la sincérité de l'opération ayant amené l'attaquant nigérian Victor Osimhen en Italie, à l'été 2020, en provenance de Lille, il répond ainsi aux accusations de fraude comptable visant le club napolitain. En parallèle à l'achat d'Osimhen, le Napoli a fait baisser la facture en vendant à Lille quatre joueurs pour environ 20 millions d'euros. Cette somme est considérée par la presse comme surévaluée puisque trois de ces joueurs n'ont jamais joué à Lille et évoluent désormais en troisième division et en Dessa en Italie. Naples, comme 10 autres clubs, est poursuivi par la justice sportive pour fraude comptable présumée. La demi-finale de barrage du Mondial 2022 Écosse-Ukraine, reportée en mars en raison de l'offensive russe, a été reprogrammée au 1er juillet et son vainqueur affrontera Le Pays de Galles le 5 juin pour une place au Qatar, annonce la FIFA. La rencontre Écosse-Ukraine aurait dû avoir lieu à Hampden Park le 24 mars, mais avait été reportée avec le soutien de la Fédération écossaise, alors que la plupart des internationaux ukrainiens étaient profondément affectés par l'invasion russe en Ukraine, commencée en février.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Inondation en Afrique du Sud, un dernier bilan ce jeudi fait état de 341 morts. L'état de catastrophe a été déclaré. Le président Cyril Ramaphosa, qui a visité le KwaZulu-Natal hier, a déploré une catastrophe aux proportions énormes. Des centaines de maisons ont été détruites ou endommagées, ainsi que 140 écoles et de nombreuses routes. Le manque d'entretien des canalisations, souvent obstruées par des immondices, a aussi aggravé la situation. Valérie Hirsch, l'une de nos correspondantes sur place, fait le point.
C'est un vrai déluge qui est tombé sur la ville de Durban lundi. 351 mm d'eau, le double du record précédent d'avril 2019. 4000 maisons étaient détruites ou endommagées, 140 écoles et de nombreuses routes, selon les autorités. Beaucoup de personnes sont décédées suite à des glissements de terrain. Cette grand-mère a ainsi perdu sa fille de 37 ans et 4 petits-enfants dans un township de Durban.
J'ai entendu un énorme bruit et la maison s'est effondrée.
Les routes autour du port ont été coupées par les inondations. Des containers ont été emportés et on voit des files de camions sur plus de 10 kilomètres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a visité plusieurs sites affectés par les inondations.
The road that takes almost 1,300 trucks a day.
La route empruntée par 1300 camions par jour vers le port a aussi été endommagée. Donc nous faisons face à une catastrophe d'une proportion énorme. Mais le gouvernement est en train de se mobiliser. L'armée va être déployée. Nous allons donner le plus d'assistance possible aux gens.
Ramaphosa a mis en cause le changement climatique et promis de prendre des mesures pour mieux prévenir ce genre de catastrophe. Les experts blâment aussi l'exode rural vers les grandes villes comme Durban. Les plus pauvres construisent des logements de fortune le long des rivières. Faute de place, ils coupent les arbres pour avoir du combustible. Les pentes des collines devenues instables provoquent des glissements de terrain. Le manque d'entretien des canalisations, souvent obstruées par des immondices, a aussi provoqué de nombreuses inondations. Le professeur Christo Kotze, spécialiste des catastrophes, à l'Université du Nord-Ouest.
Something we don't do well in South Africa is obviously do proactive planning for the worst case scenario.
Une chose que l'on ne fait pas bien en Afrique du Sud, c'est la mise en place de plans d'action préventifs en cas de catastrophe. Souvent, le gouvernement doit gérer de nombreux problèmes de développement. Cela entraîne des coupes budgétaires dans d'autres domaines, comme souvent les investissements dans les infrastructures et leur entretien, et on en voit les conséquences.
Beaucoup d'habitants se sentent abandonnés et ont exprimé leur mécontentement lors de la visite du président Ramaphosa. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les ONG exigent la libération de l'étudiante Chancelia Derfi Mulunda, incarcérée depuis 14 mois pour atteinte à la sûreté de l'État. Les activistes des droits de l'homme estiment qu'il s'agit d'une détention arbitraire et que son dossier est vide. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
La société civile et la famille Mulunda ont demandé ce jeudi matin à Brazzaville la libération de l'étudiante de 27 ans, détenue voici 433 jours sans jugement. Le juge d'instruction a rejeté la demande de sa mise en liberté provisoire et même corsé les conditions de son emprisonnement. Chancelia n'a plus droit aux visites. Son père, Jean Mulunda, s'est dit très choqué.
Donc un père qui a sa fille, bien qu'en détention, mais au moins il devrait avoir la possibilité ou l'autorisation de visiter sa fille à chaque fois. Et c'est ça qui va réconforter la fille et en même temps, moi aussi le père. Monsieur Tassin, non, pas de visite, rien. Et donc, je suis là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et même, je peux dire, je me demande même si elle est encore en vie. Elle est là-bas. Moi, je suis à la maison. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on n'a pas fait ça juste pour cacher quelque chose, que ma fille n'existe plus ou bien ne vit plus? Voilà pourquoi on a dit que non, pas de visite, pas ceci. Donc, voilà.
L'étudiante Chancelia Mulunda, en année de master à l'université Marie Ngouabi, détenue depuis 14 mois, est arrêtée pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle avait reçu plusieurs fois des transferts d'argent pour acheter des explosifs servant à casser la pierre à Kombé dans le sud de Brazzaville. Une activité presque banalisée et connue de toutes les autorités. Pour les ONG, il s'agit d'un dossier non consistant. Joe Washington Ebina dénonce une affaire montée de toutes pièces.
Si le juge prend le soin de faire des enquêtes, il va constater que beaucoup de gens utilisent des explosifs. C'est une activité normale, reconnue. Mais comment cassez-vous des pierres? Comment fait-on pour avoir de la caillasse? Mais la caillasse, ça part par rapport à cela. Mais aujourd'hui, il ne faut pas instrumentaliser ce genre d'activité comme étant des activités criminelles. Mais nous ne comprenons pas comment une jeune dame qui a simplement aidé à récupérer de l'argent et des modiques sommes d'argent pour donner à une personne, aujourd'hui, elle est considérée comme étant une grande criminelle. Elle est considérée au même titre que d'autres opposants. Écoutez, il ne faut pas distraire la République avec ce genre d'informations.
Selon Trésor Ndilakende, le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement CAD, il s'agit d'une détention arbitraire. Et les ONG n'espèrent pas voir s'ouvrir rapidement le procès de la jeune dame.
Le dossier ne va pas arriver au tribunal très rapidement parce que ça fait 14 mois qu'ils ont été incapables de présenter le dossier devant un tribunal. Pour nous, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas un dossier qui est constitutif, qui a des éléments solides et substantiels pour parler d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est de l'arbitraire pur et simple que nous condamnons et la conséquence doit être la libération pure et simple.
Au cours de l'échange qu'ils ont eu avec les journalistes, les activistes des droits de l'homme ont annoncé déposer une plainte à la Cour suprême contre le juge d'instruction. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Malgré la pandémie de coronavirus, les performances du port autonome de Lomé ont progressé en 2021 par rapport à l'année précédente. C'est le constat fait par les autorités dirigeantes de la plateforme portuaire au Togo. Elles indiquent que le port autonome de Lomé a maintenu sa courbe de progression ascendante au cours de ces 5 dernières années. De Lomé, les explications de notre correspondant Kossi Ouossou.
Les statistiques des activités du port de Lomé pour l'année 2021 parlent d'elles-mêmes. La plateforme portuaire de Lomé a accueilli 1629 navires en 2021 contre 1510 en 2020, soit une progression de 7,8%. Selon le directeur général Fogan Adegnon, la même tendance haussière est constatée au niveau de l'import et de l'export.
Le trafic import de 2020 comparé à celui de 2021 a augmenté de 3,93% avec 7 662 207 tonnes en 2020 et 7 963 244 tonnes en 2021. Le trafic export entre 2020 et 2021 est de 1 336 308 tonnes et 1 445 970 tonnes. Le trafic conteneur en équivalent 20 pieds, 1 725 000 conteneurs en 2020 à 1 962 304 conteneurs en 2021. Le trafic conteneur donc a progressé de 13,14%.
L'un des atouts du port autonome de Lomé repose sur la rapidité des formalités administratives. Les performances sont induites par les réformes entreprises depuis quelques années, avec la dématérialisation de la plupart des opérations qui en sont pour quelque chose. Fogan Adegnon.
Au port autonome de Lomé, la totale dématérialisation a pour objectif d'éliminer les entorses à la compétitivité du port autonome de Lomé, coûts et faux frais, à la rapidité, à la transparence dans les formalités administratives d'entrée et de sortie des marchandises, dématérialisation des procédures d'enlèvement des marchandises, à la prise en compte automatique des factures sans la présence des transitaires au guichet du port, à la mise à disposition d'un portail client où tous les clients peuvent soumettre les requêtes de tous ordres ainsi que les réclamations.
Dans sa quête permanente de la qualité des services, le port autonome de Lomé envisage l'aménagement d'un port sec à l'intérieur du pays afin de rapprocher les marchandises des opérateurs économiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il nourrit aussi l'ambition de réhabiliter des voies ferroviaires existantes et l'aménagement de nouvelles voies jusqu'au port sec afin d'assurer l'acheminement à moindre coût des marchandises en provenance ou à destination des pays sans littoral. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié l'Ukraine de scène de crime lors d'une visite à Boutcha hier. Selon Kiev, des fosses communes ont été découvertes dans cette ville après avoir été occupées par les forces russes. Moscou qualifie de fausses les accusations de meurtre de civils. Le point avec Jacques Aristide.
Une équipe médico-légale de la Cour pénale internationale s'apprête à entamer son enquête à Boutcha, ville située près de Kiev, la capitale ukrainienne. Le Britannique Karim Khan, procureur de la CPI.
Chaque individu, en particulier les civils, a certains droits. Nous devons parler pour eux et nous devons insister pour que nous découvrions la vérité sur ce qui s'est passé et les juges décideront de toute responsabilité.
D'après le gouvernement ukrainien, des centaines de civils ont été retrouvés morts après l'occupation des troupes russes. Le Kremlin nie toute exaction. Le président russe Vladimir Poutine.
Quand ils ont mis en scène des provocations en Syrie, quand ils ont présenté le gouvernement Assad comme utilisant des armes chimiques et qu'il s'est avéré que c'était un fake, c'est le même genre de fake à Boutcha.
Les États-Unis indiquent qu'ils vont aider à documenter d'éventuels crimes de guerre. Des dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, accusent Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine. Une position saluée par Kiev. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Le président Biden a parlé de génocide, pas une fois, mais deux en fait. Il devient de plus en plus clair chaque jour que l'objectif de Poutine est d'effacer l'idée d'être ukrainien. Il y a un processus légal, comme le président l'a dit, qui sera suivi et qui aura lieu. Il ne s'est pas avancé sur ce sujet, il parlait de ce que nous ressentons, il ressent ce que nous voyons sur le terrain.
En revanche, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'État français Emmanuel Macron se gardent d'employer le terme de génocide.
Le mot de génocide a un sens. Et le mot de génocide, aujourd'hui, doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Et j'attire l'attention de tout le monde. Si c'est un génocide... Les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent ? Je ne crois pas. C'est-à-dire de devenir co-belligérant.
Pour son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide est très blessant. Il réclame que Vladimir Poutine soit traduit devant un tribunal international.
J'ai parlé avec le président Biden. Parmi les sujets de conversation, la poursuite de tous les militaires et commandants russes qui ont commis des crimes de guerre. Il faut la coopération internationale pour cela.
Le Kremlin a jugé inacceptable que le président Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook,
YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.